Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Pourquoi écrire ? Pour écrire le livre parfait, celui qui dira tout de la vie, ou presque. Peut-être parce que la littérature a des pouvoirs considérables, ou bien parce que les livres peuvent changer le monde, ou pour une autre raison suprême, et non pas par habitude. Écrire parce qu'on ne sait faire que cela, et que sans l'écriture, on aurait peur de n'être rien. Peut-être aussi sans vouloir se l'avouer, pour la reconnaissance et la domination. Dans tous les cas, sans doute, par vocation, par passion. Autant de questions que se posent Simon, Paul et Idoya, qui vont se lancer dans la tourmente de l'aventure, de la création littéraire, que nous compte Chabi Molia dans son passionnant roman « La vie ou presque » paru aux éditions du Seuil, récit consacré aux écrivains, au métier d'écrire et au sens de l'écriture. J'ai donc le plaisir d'accueillir son auteur. Bonjour Chabi Molia.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Parole d'auteur. Je voulais signaler à nos auditeurs que je salue que c'est un peu une première, puisque nous enregistrons à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, et qui nous fait la gentillesse de nous accueillir. Alors, Chabi Molia, première question. Quand on lit votre livre, il y a beaucoup de questions que peuvent se poser les écrivains, que j'ai un petit peu essayé de passer en revue pour commencer. Je voudrais savoir, enfin je suppose que vous vous êtes posé vous-même toutes ces questions, on y reviendra en détail, mais ce que je voulais savoir c'est si vous avez trouvé les réponses.
Alors d'abord je crois que les livres que j'aime lire, et donc sans doute les livres que j'aime écrire, sont des livres dont les questions m'intéressent toujours davantage que les réponses, et je crois que la grande littérature est faite de très belles questions et rarement de réponses très nettes. Les romans qui ont des réponses très nettes devraient plutôt être des essais ou des tracts ou des manifestes. Et la littérature de Rabelais, de Cervantes, de Dostoïevski, c'est pas une littérature qui répond très clairement. Donc la question qui m'a occupé depuis des années, elle est très étrange parce que je devrais savoir y répondre, c'est pourquoi écrire ? Pourquoi est-ce qu'on écrit ? Pourquoi est-ce qu'on passe une vie à écrire alors qu'en fait on pourrait ne pas ? Et parfois on devrait ne pas. On devrait ne pas écrire parce qu'écrire c'est rarement un gagne-pain. Écrire c'est souvent se confronter à la difficulté de l'expression. C'est souvent faire l'expérience de mal dire les choses, pas comme on voudrait. Et puis écrire, si vous voulez une vie de domination, vous parliez de ça dans votre introduction, c'est peut-être pas en littérature qu'il faut s'embarquer, il vaut peut-être mieux être une rockstar ou un homme politique, mais la littérature vous mène rarement au pouvoir. Donc tout ça fait qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de, pas tout à fait d'un sacerdoce, mais enfin c'est une voie comme ça qui est malaisée, et pourtant on est nombreux à l'emprunter, à vouloir l'emprunter, à regretter de ne pas pouvoir l'emprunter, et donc il y a bien quelque chose qui est de l'ordre du mystère. Et ce mystère, on peut l'explorer de plein de manières. Moi, pour vous vraiment répondre au fond de votre question, je dirais que la réponse varie. Il y a des livres qu'on lit pour mieux comprendre le monde, il y a des livres qu'on lit pour échapper au monde, il y a des livres qu'on lit parce qu'on a mal et qu'on a besoin de se faire du bien, il y a des livres qu'on lit parce qu'on a besoin d'avoir mal avec d'autres. Donc en fait, si on regarde notre bibliothèque, elle est faite de plein de réponses différentes à la question « Pourquoi les livres ?»
D'accord. Alors avant d'essayer de revenir sur ces nombreuses questions, je voudrais essayer de vous présenter un petit peu à nos auditeurs. Donc vous êtes né à Bayonne, vous êtes scénariste, auteur et réalisateur, vous avez donc une activité d'écrivain, une activité de cinéaste. Alors on verra tout à l'heure si c'est quelque chose qui se complète ou qui s'oppose. Juste un petit arrêt sur votre prénom. Votre prénom qui est un prénom basque, si j'ai bien compris.
Oui.
Et comment on passe de François-Xavier à Chabi ?
Oui, en fait, c'est une histoire étrange parce que c'est pas du tout un surnom, c'est vraiment un prénom qui m'est tombé dessus après ma naissance. En fait, mes parents étaient pas du tout sûrs du prénom qu'ils voulaient me donner. Ils ont hésité toute la nuit après ma naissance. Ils m'ont donné un prénom plutôt qu'un autre. Ils hésitaient entre François-Xavier et Romain. Et je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ce prénom très, très vieille France, très bon chic, bon genre, François-Xavier, qui était pas du tout correspondait pas du tout à notre identité familiale. Et je pense qu'ils devaient pas être très, très convaincus. Et puis, un jour, une nounou qui s'occupait de moi et qui parlait basque, en fait c'était sa langue maternelle, a dû trouver que François-Xavier c'était extraordinairement compliqué et donc elle m'a rebaptisé Chabi, qui veut dire Xavier en basque. Alors les basques diraient plutôt Xavier veut dire Chabi en français. Et c'est le prénom que j'ai porté, mais jusqu'à ignorer complètement que je m'appelais François-Xavier. Je l'ai découvert très tard, quand j'ai su lire et que j'ai vu sur une étiquette cousue à l'intérieur de mon pull que le pull que je portais appartenait à quelqu'un qui s'appelait François-Xavier. J'ai dit à ma mère, je porte le pull de quelqu'un, et c'est pas le mien. Et elle m'a dit, si, c'est ton prénom. Donc c'était comme une sorte de révélation. Mais c'est un prénom que mes sœurs ne connaissent pas. Moi, si j'entends François-Xavier dans la rue, je vais pas me retourner, par exemple. J'ai jamais vraiment porté ce prénom. Mais j'ai cette sorte de double identité un peu étrange. Mes papiers sont au prénom de quelqu'un d'autre. Je m'appelle toujours officiellement sur mon passeport, à la banque, François-Xavier. C'est comme une sorte de possibilité d'imposture ou de possibilité de se cacher. Ce prénom, voilà, est lié donc à une histoire familiale, au fait que mes parents, qui n'étaient pas originaires du Pays Basque, sont venus s'installer là, et que on dit qu'on choisit pas toujours son prénom. Dans mon cas, c'est doublement vrai, puisque c'est un prénom que même mes parents n'ont pas choisi, mais qu'ils ont adopté.
Et est-ce que c'est quelque chose dont vous servez dans vos activités? Parce que j'ai cru comprendre que vous aviez publié sous le nom de François-Xavier et sous le nom de...
Mon premier roman était publié sous mon nom d'état civil, François-Xavier Molia. J'en avais fait quelque chose, en fait, parce que dans le livre, on comprenait que c'était l'anagramme d'un personnage. Donc, par une sorte de retournement, le nom vrai, c'était celui du personnage, et le nom faux, celui de l'auteur. Et puis, ce livre, en fait, a été un vrai désastre. Je l'ai extrêmement mal vécu. C'est un de ces premiers romans, comme il en existe beaucoup chaque année en France, qui ne rencontre absolument pas son public. Et donc, moi, j'ignorais qu'on pouvait vendre aussi peu de livres. Donc, j'ai dû en vendre moins de 300 exemplaires. Et j'ai fait un peu comme un des personnages du roman qui nous occupe aujourd'hui, Simon. J'ai eu envie, en fait, de repartir à zéro après ce premier livre qui était vraiment très douloureux pour moi. Une expérience douloureuse d'un livre qui n'existe pas, que vous avez publié, mais qui en fait n'a pas de vie, qui n'a pas d'article, qui n'a pas de lecteur. Et donc je suis revenu à mon prénom, qui était un prénom provincial, un prénom étrange, un prénom avec lequel j'étais peut-être pas complètement à l'aise à l'époque. Je trouvais que François-Xavier, ça faisait peut-être plus prénom d'écrivain, prénom sérieux, prénom Gallimard. Mais je suis revenu à Chabi et ça a été comme une sorte de second départ dans ma carrière et une manière d'effacer le premier livre, ce qui était un peu puéril, hein, puisque ce premier livre, aujourd'hui, je me dis, c'était lui et ça me convient. Mais c'était une manière de me raconter que je pouvais peut-être recommencer, que je pouvais avoir une autre vie possible. Et ça, c'est vraiment un thème qui m'est très cher, en fait, qui est presque de l'ordre de la hantise chez moi et qui parcourt complètement le livre, hein, l'idée que est-ce qu'on peut se réinventer, est-ce qu'on peut emprunter d'autres identités, est-ce qu'on peut changer son parcours de vie. Voilà, ce sont des questions que je pense qu'on est très 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 nombreux à se poser et on est nombreux à désirer, en fait, que nos vies puissent être multiples. Voilà.
Alors ça, c'est l'aspect de l'auteur, de l'écrivain. Vous avez une autre corde à votre arc, c'est le cinéma.
Oui.
Et j'ai noté que vous aviez soutenu une thèse dont l'objet est un cinéma de destruction, approche esthétique, historique et industrielle du film catastrophe hollywoodien.
Oui.
Quelle idée ?
Ah, c'est une histoire assez, je peux vous en parler parce que ça paraît anecdotique, mais ça raconte un peu qui je suis. Moi, en fait, je viens d'un milieu qui n'est pas du tout défavorisé, mais un milieu où la culture légitime n'existait pas beaucoup. Moi, j'ai pas grandi devant la Nouvelle Vague, j'ai pas lu Flaubert, etc. Mais mes études m'ont amené jusqu'au lycée Henri IV, puis jusqu'à l'école normale supérieure, et j'ai eu envie, comme ça, d'embrasser cette culture ultra savante. Et donc, je me suis embarqué dans des études littéraires sur la littérature de la Renaissance. Et je travaillais sur des romans très érudits, très peu connus. Et puis, j'ai eu peur. J'ai eu peur d'une vie universitaire où je serais enfermé dans un cénacle de savants, incapable de s'adresser à d'autres qu'eux, et surtout incapable de raconter le dimanche à midi, quand j'allais retrouver mes parents, à quoi j'employais mes journées à l'université. Et donc j'ai décidé de faire entièrement demi-tour, j'ai laissé de côté les études littéraires, j'ai voulu faire des études de cinéma, j'ai voulu étudier l'histoire du cinéma, et j'ai voulu étudier un cinéma populaire, un cinéma connu de mes parents, Les Dents de la Mer, La Tour Infernale, L'Aventure du Poséidon, voilà. À partir d'une sorte d'étonnement, de me dire, mais c'est étrange, ces films qui racontent la destruction et pourtant qui sont jubilatoires. Qu'est-ce qui fait que vous allez payer votre billet pour voir New York ou Los Angeles détruite, ravagée, anéantie? Voilà. Donc ça m'a intéressé. Mais ce qui m'a plu, c'est aussi, voilà, c'est un peu de tourner le dos à une forme de culture trop savante, trop légitime, et de tenter de retrouver, avec des outils intellectuels bien sûr, mais de tenter de retrouver la culture populaire et d'y réfléchir. Et au fond, j'ai l'impression que ça se transmet dans la littérature que j'écris, qui est une littérature très influencée par des grands maîtres que peuvent être Gustave Flaubert ou Georges Perec, mais qui est une littérature qui est aussi soucieuse de reprendre des formes de narration qu'on trouve dans la culture populaire. J'ai écrit un roman de super-héros, j'ai écrit un roman post-apocalyptique. Voilà, je me suis intéressé à ces formes de narration-là.
Alors effectivement, dans les thèmes que vous abordez dans vos livres, j'ai lu plusieurs fois que vous étiez qualifié d'auteur d'histoire souvent déjanté.
Ah bon?
vous étiez qualifié souvent d'auteur de super-héroïque, super-sensible, et que on pouvait aussi vous qualifier d'auteur néoclassique à tendance borderline.
Ah bon?
Et grand raconteur d'histoire. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle, ou vous pensez que c'est un portrait exagéré?
Je ne sais pas ce qu'on pense de la manière dont les autres vous définissent, c'est toujours un peu étrange. Alors, le mot raconteur, je l'aime beaucoup. C'est vrai que si je devais définir qui je suis, je dirais je suis un raconteur d'histoire qui emprunte des formes différentes pour raconter, principalement la forme du cinéma et la forme du roman. Mais j'aime ça. Quand je me projette dans mon activité, j'ai l'impression de faire une activité immémoriale qui est celle du conteur. J'ai l'impression que je m'installe au coin du feu, sur une chaise, une petite chaise, qu'autour de moi il y a un cercle et que je vais raconter une histoire. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Après, j'ai envie de le faire dans une certaine langue, mais ma préoccupation première, c'est ça. C'est de vous donner envie de tourner les pages, de vous donner envie de savoir ce qui va venir, de vous donner envie d'escorter aussi des personnages qui vous ressemblent et qui en même temps qui vous étonnent. Et après, sur la question super-héroïque et tout ça, moi ce qui m'a souvent amusé, c'est d'imaginer un homme ordinaire plongé dans des circonstances extraordinaires. Ça, j'aime beaucoup. Au fond, le film La mort aux trousses d'Hitchcock, c'est ça. Le procès de Kafka, c'est ça. C'est-à-dire, c'est comment vous, moi, n'importe qui peut, à un moment donné de sa vie, en raison souvent d'un hasard ou d'une décision incompréhensible, se retrouver embarqué dans une aventure. Voilà. Les aventures pour aventurier professionnel, c'est pas mon truc. Les aventures pour monsieur tout le monde, ça commence à m'intéresser très fort.
Et est-ce qu'on pourrait dire que vous aimez étudier comment le chaos s'installe dans nos existences?
Oui, c'est beau que vous disiez ça. Ça me plaît beaucoup parce que quand j'ai réfléchi à la vie ou presque cet été, en me disant on va me poser des questions, qu'est-ce que j'ai à en dire, je me suis dit c'est marrant, en fait je pense que c'est un livre sur la question du chaos, c'est-à-dire que nos vies sont très chaotiques, et la littérature c'est une forme qui a un rapport étrange au chaos. En fait, quand on y réfléchit. Parce qu'un livre, c'est toujours la mise en ordre de quelque chose. Un livre, en fait, c'est même très orthodoxe, un livre. Ce sont des lignes que vous devez lire les unes après les autres. À la différence d'un tableau, par exemple, qui vous laisse une grande liberté d'approche. Un livre, vous pourrez me dire, on y entre par la page 81, c'est vrai. Mais un livre, vous allez quand même toujours le lire de la gauche vers la droite. Vous allez quand même toujours le lire de haut en bas, ligne après ligne, etc. Et la syntaxe, c'est une mise en ordre par le langage du chaos. Et en même temps, si cette mise en ordre va trop loin, si vous êtes trop dans la domination du chaos, à mon avis, vous faites pas une bonne littérature. Donc, quelle place laisser au chaos? Comment dominer les choses pour les nommer, mais sans les dénaturer, puisque la vie est foncièrement une vie où le hasard a une grande part, où le sensible inexprimable a une grande part. Voilà, donc la question du rapport au chaos, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
Alors, nous allons y revenir à travers ce livre, mais pour l'instant, je vous propose un premier moment musical.
I was young when I left home, and I've been all rambling round. And I never wrote a letter to my home, to my home, Lord, love to my home. And I never wrote a letter to my home. It was just the other day I was bringing home my pain, when I met an old friend I used to know. Said your mama was dead and gone, and baby sister's all gone wrong, and your daddy needs you home right away. Not a shirt on my back, not a penny on my name, but I can't go home this way, this way, Lord, Lord, this way, that I can't go home this way. If you miss the train I'm on, count the days and I'm gone. You will hear the whistle blow 100 miles, 100 miles, honey baby, Lord, Lord. You'll hear the whistle blow 100 miles, and I'm playing on the track, Ma will come my back on them trestles down by Jim McHale. When I pay the debt I owe to the commissary store, I will pull my watch and chain and go home. Go home, Lord, Lord. I will hold my watch and chain and go home.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours en compagnie de Chabi Molia pour son livre « La vie ou presque » paru cette année aux éditions du Seuil. Chabi Molia, ce titre « La vie ou presque ».
Oui.
Alors, évidemment, pourquoi? Mais avant que vous ne répondiez, j'ai quand même trouvé quelques éléments, quelques pistes. En parlant de l'héroïne, puisqu'il y a trois héros et une héroïne, une petite citation, page 18. Déjà, elle rêve au livre parfait, celui qui dira tout de la vie ou presque. J'ai trouvé que c'était un pivot dans ce livre. Vous pouvez nous en dire plus?
Bien sûr. Le roman commence dans les années 80-90 sur la côte basque, deux frères qui ambitionnent d'être écrivains, Paul et Simon, ont pour voisine une jeune adolescente qui a l'âge de l'aîné, Simon, et qui les sidère par ses goûts littéraires, l'assurance de ses jugements et ses ambitions. Hein, elle veut comme eux écrire et elle voudrait écrire les meilleurs livres du monde. Mais elle n'est pas prétentieuse, elle n'est pas vaniteuse, c'est même tout le contraire. Elle est persuadée qu'elle n'écrit pas assez bien, qu'elle n'y arrivera jamais. Et au fond, sa vie va être entièrement guidée par, d'un côté, une très grande exigence et de l'autre, au fond, une très grande fragilité puisqu'elle n'a jamais la sensation que ce qu'elle écrit mérite d'être publié. Et donc, le passage que vous avez cité, qui a donné son titre au livre, c'est le moment où, adolescente, elle tente de définir ce qu'elle cherche, ce livre parfait dont elle ne sait quelle forme il faut lui donner. Est-ce qu'il doit être très, très ample, très bref, très sobre, très brillant? Et elle dit cette chose, voilà, un livre qui dirait tout de la vie ou presque. Et ce ou presque, moi, c'est évidemment ce qui m'intéresse. Ça revient un peu à ce que je vous disais avant le morceau, avant la chanson qu'on a écoutée. Le ou presque, c'est l'endroit où la littérature tremble, c'est l'endroit où peut-être on peut dire qu'elle échoue, et en même temps, c'est l'endroit où elle vibre le plus fort. Tous, on est dans une entreprise, tout écrivain, je crois, quelles que soient les formes qu'on emprunte, quels que soient les styles qu'on poursuit, on est tous à la recherche d'une manière de parler de l'expérience humaine, mais cette expérience, ça n'est pas une expérience que de mots, or nous n'avons que les mots à notre disposition. Et donc, la littérature, c'est une sorte de ligne asymptotique qui voudrait s'approcher du réel, qui va s'en approcher peut-être parfois très près, mais qui ne l'atteindra jamais tout à fait. Et donc, de cet échec programmé, que faisons-nous? Voilà, est-ce qu'on fait un deuil en se disant « mais c'est pas possible, cette fête que j'ai vécue hier, je n'arrive pas à la remettre en mots » Ou est-ce qu'on se joue de cette... de ce rapport, voilà, entre la vie et le langage, qui est toujours un peu à côté de la vie, et en même temps qui se nourrit d'elle, hein, sans quoi il n'y a pas de livre, il n'y a pas de récit. Voilà. Et c'est à cet endroit-là, cette forme, je dirais, d'imperfection, que se situent mes trois personnages. Certains ont le courage de l'imperfection, c'est-à-dire le courage de se dire... je vais publier quand même si c'est pas le livre parfait. Et Idoya, elle a ce démon de la perfection qui va très longtemps dans sa vie, je peux pas tout raconter ici, mais très longtemps l'empêcher en fait d'aboutir dans ses projets littéraires. Et c'est une autre forme de courage.
En ce qui concerne le roman et la manière dont vous racontez cette histoire, je voudrais attirer l'attention des auditeurs sur le serment que font les héros au début du livre et où vous écrivez: ils céderont à devenir les meilleurs écrivains de France, ils se liront l'un l'autre avec sincérité, même si ce doit être cruel, ils refuseront le Goncourt en particulier et les breloques en général, ils ne désireront jamais les mêmes femmes, ils seront heureux. Alors quand on lit cette phrase, on se dit: vaste programme. Mais là où je voudrais insister auprès des lecteurs et où je trouve que cette phrase est très forte, c'est que quand les lecteurs auront terminé de lire ce roman, cette phrase va complètement s'éclairer. Alors, question particulière au niveau de ce serment.
Oui.
C'est formidable de voir des jeunes gens investis si jeunes dans une conviction au sujet du fait que la littérature, ça sera leur vie. Ce sont des héros atypiques, plus qu'héroïques. Sur quelle planète vivent ces héros?
Oh, ils vivent sur une planète que vous avez dû connaître et que vos auditeurs, auditrices connaissent aussi. Ils vivent à Bayonne, et ça je crois que c'est très important. Pour moi, en tout cas, c'était très important de raconter quelque chose que j'avais expérimenté, c'est-à-dire ils vivent très loin du monde littéraire, dans l'ignorance complète de ses codes, de sa cuisine, de ses arrangements, de ses rapports de pouvoir. Au fond, ils vivent dans le Lagarde des Michards, dans les manuels de littérature où la seule chose qui compte, c'est l'œuvre, c'est sa qualité, c'est sa puissance de résistance à l'oubli, sa capacité à raisonner d'époque en époque. Il pense que la littérature, c'est ça. Et moi, j'étais comme eux. J'étais dans cette quête, simplement, de la meilleure histoire et du mot juste. Et je croyais qu'on était récompensé à proportion de son talent. Et puis, c'est après que j'ai découvert que, malheureusement... Mais ça, Pierre Bourdieu l'a très très bien raconté. Ben, les règles de l'art, ce sont c'est un marché. Ce sont des, il y a des rapports de domination. Il y a plein de choses qui font que vous serez puissant ou misérable, connu ou inconnu. Ça tient parfois à votre talent ou à votre manque de talent, mais pas seulement. Et eux, ils sont à ce moment qu'on a tous connu, je pense, ce moment de l'adolescence auquel je suis très attaché, qui est le moment des promesses. Je ne sais pas si vous avez fait si vous avez fait cet exercice que beaucoup d'entre nous ont fait. Vous avez 15 ans et vous écrivez une lettre à celui que vous serez à 45 ans, où vous promettez des choses et vous espérez que l'homme de 30 ans ou l'homme de 45 ans, quand il lira cette lettre, s'y retrouvera encore, s'y reconnaîtra. Moi, j'ai fait ça. Et je pense qu'on est nombreux à l'avoir fait. Et au fond, c'est un peu ce que raconte aussi la chanson qu'on a écoutée, la chanson de Bob Dylan, I Was Young When I Left Home. C'est l'histoire d'un homme qui a quitté son pays avec de grands espoirs, enfin surtout l'espoir tout simplement d'une vie digne, d'une vie où il gagnerait suffisamment sa vie. Et puis il est pauvre. Et donc, il n'ose pas rentrer chez lui. C'est ce que disent les paroles de Bob Dylan. Il n'ose pas rentrer chez lui parce qu'il n'a pas un penny dans sa poche et il a à peine une chemise sur son dos. Et donc, il a honte de ce qu'il est devenu. Et la question de ce regard rétrospectif qu'on peut porter sur soi-même, parfois, l'adolescence est... C'est celui qu'on n'est plus, c'est celui dont on se souvient, mais c'est aussi parfois notre juge. Est-ce que j'ai été à la hauteur de celui que je m'étais promis d'être, voilà. Et ces adolescents, ils ont, alors eux c'est la littérature, mais ça aurait pu être autre chose, ils ont la chance, et moi j'ai eu cette chance là d'avoir une grande passion. Ce sont des êtres passionnés, voilà. Vous disiez ils sont héroïques, oui, ils sont héroïques dans la mesure où ils ont un désir. Et ça, c'est une chose, c'est marrant que vous ayez dit héroïque, parce que c'est une chose qui peut parfois nous inquiéter dans notre époque. Où sont les passions? Est-ce que les réseaux sociaux, la satisfaction généralisée d'un certain nombre de petits désirs ne rend pas certaines vies plus tièdes qu'elles auraient été sans ce déversoir comme ça d'images, de petites satisfactions. Moi, je me pose cette question. En tout cas, je sais que c'est une chose qui m'inquiète quand je regarde mes fils grandir. Je leur souhaite d'avoir des passions. Je leur souhaite pas le succès, je leur souhaite pas la gloire, je leur souhaite pas l'argent, mais je leur souhaite le sens. Je leur souhaite de se lever le matin avec une envie, avec un besoin de faire quelque chose. J'ai eu ça et les jeunes écrivains dont je raconte toute la vie, en à peine plus de 200 pages, ils ont ça aussi.
Alors effectivement, ces jeunes, ils sont menés par une passion qui est très forte et qui, on le voit dans l'histoire, dans le déroulé du roman, les amène parfois à des situations où on aurait même... Le lecteur aurait tendance à dire, mais là, il n'a pas compris que peut-être cette passion le brûle, mais elle est plus forte que tout. Et il persiste sans arrêt.
Bien sûr. Vous avez dit au début, dans le petit texte que vous avez lu, vous avez dit écrire parce qu'on ne sait faire que ça ou écrire parce qu'on ne peut faire que ça. Je suis complètement d'accord. Moi, je le disais au début, très régulièrement, après chaque livre en général ou chaque film, je décide que je vais tout arrêter. Je me dis c'est fini Chabi, tu vas passer le concours d'instituteur. Tu vas prendre un travail régulier, tu vas faire du mieux que tu peux au quotidien dans ce travail, mais c'est fini les grands projets, c'est fini l'écriture au long cours, c'est fini aussi les douleurs de ne pas y arriver ou les douleurs que peuvent être le fait que le livre ou le film ne rencontre pas un public ou pas un public aussi large qu'on voudrait, choses qui peuvent être parfois difficiles à vivre. Mais ça dure une journée. Je ne sais pas faire autre chose. Je crois pas au destin. Donc je ne vais pas dire je suis né pour raconter, mais j'ai eu très tôt l'envie de raconter des histoires. Je crois que c'est la chose que je fais le mieux. quelques recettes de cuisine que je réussis bien, mais je pense que ce que je sais le mieux faire, c'est raconter des histoires et que je ne peux pas vivre sans. Donc en fait, la question de est-ce que je vais continuer ou pas, elle ne se pose pas. Et on est encore une fois, heureusement, nombreux comme ça, dans plein de vies différentes, à se dire je suis à l'endroit où je dois être. Donc est-ce que j'en souffre? Est-ce que ça pourrait être mieux? Ces questions-là deviennent finalement un peu accessoires, puisque de toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix. C'est ça ou mourir.
Et finalement, le fait d'atteindre ce graal que serait le livre parfait, et on pourrait peut-être même dire le film parfait, c'est pas tellement important, puisque ce qui est important, c'est pas l'objectif final, c'est le chemin qu'on emprunte et ce que l'on vit.
Oui, alors il y a ça d'abord, c'est vrai que c'est étonnant comme une vie d'écrivain célèbre et une vie d'écrivain pas célèbre se ressemblent, vous savez. Il n'y a pas beaucoup de différence. Stephen King, qui a vendu des millions d'exemplaires le matin, il allume son ordinateur, il n'a pas un ordinateur beaucoup plus perfectionné que le vôtre, il n'a pas un traitement de texte différent du vôtre, il n'a pas une électricité de meilleure qualité, et qu'est-ce qu'il fait? Il écrit, et vous, vous écrivez. Et donc... Il n'y a pas de différence dans ces vies-là. J'ai perdu le fil, excusez-moi, de la question. Vous me disiez...
Par rapport à la recherche du film
oui,
parfait ou
donc ce chemin, en fait, que vous ayez le succès ou pas, ce chemin compte. Mais surtout, il y a une chose, et ça vraiment j'y insiste, c'est que justement quand vous avez un peu comme mes personnages ou comme moi, découvert la littérature dans le cadre scolaire, moi, j'ai pas découvert autrement, j'ai pas découvert par ma famille, j'ai pas découvert par un écrivain. Vous pouvez avoir l'impression qu'un bon livre, c'est comme un bon devoir de physique-chimie, c'est-à-dire, il faudrait avoir 20 sur 20. Et donc, la belle œuvre, c'est l'œuvre parfaite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire parfait? Je sais pas très bien. Mais ça veut dire l'œuvre, peut-être qu'on ne s'ennuierait jamais, l'œuvre où il n'y aurait aucune faute de goût, etc. Mais en fait, ça, c'est introuvable. Ça n'existe pas. Je vous mets au défi de trouver un livre comme ça. Et je pense que si vous m'en apportiez un, je vous soupçonnerais d'être de mauvaise foi. Moi, j'adore Proust. Mais il y a des passages de Proust dans lesquels je me suis profondément ennuyé. Il y a des notations de Proust dont je ne suis pas très sûr qu'elles soient tout à fait réussies. Est-ce que ça enlève quelque chose à son talent? Absolument pas. Mais le talent d'un artiste, ça n'est pas de trouver à chaque coup, de la même manière que le talent d'un tennisman, ça n'est pas que toutes les balles soient dans le court. Raphaël Nadal, il a fait des doubles fautes, les balles sortent du court. Il n'est pas tout le temps en train de réussir son court, Raphaël Nadal. Et ben un artiste, c'est pareil. Au fond, un artiste et un tennisman, c'est très proche. Ce sont des gens qui tentent de faire des choses. Et puis de temps en temps, ça rate. De temps en temps, c'est bien. Et de temps en temps, c'est somptueux. Et quand on se souviendra de Raphaël Nadal, on se souviendra des coups les plus somptueux qu'il a exécutés au cours de sa carrière. Et quand on se souvient de John Ford, qui a fait tant de films, on se souvient de ses meilleurs films et pas de ses mauvais films. Pareil pour Alfred Hitchcock. Et quand on se souvient de Proust, on se souvient évidemment des plus belles pages. Donc en fait, la question n'est pas celle de la perfection, n'est pas celle de la bonne copie. La question est celle de l'intensité. Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes allé à un endroit où ça vibre plus fort pour vous et pour le lecteur que dans d'autres pages.
Xavi Molia, je vous propose maintenant d'écouter un morceau et nous essaierons de vérifier si son intensité provoque les vibrations dont vous venez de parler.
parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Chabi Molia, nous venons d'écouter Piano Works 9 ou 9, je ne sais pas, par Paul-Éric Rouvière. Quelle est la signification de cette musique pour vous par rapport au livre ?
Mon livre, c'est un livre sur des vies d'écrivains, mais c'est un livre sur des vies tout court, sur des vies qui vont filer comme ça, de gens qui vont s'aimer, voyager, se perdre, se retrouver. Et je trouve que dans ce morceau, il y a des tonalités très différentes. Ça commence de façon très menaçante. Et puis, j'ai l'impression ensuite d'être sur une plage, dans un jour de grand beau temps, comme si le soleil avait succédé à la tempête. Et puis, cette mélodie arrive très délicate. J'ai l'impression de voir des enfants jouer. J'ai l'impression que le morceau tient quelque chose de très ténu et de très entêtant qui me semble être ce qui, moi, me donne le goût d'exister.
Nous sommes toujours en compagnie de Chabi Molia pour son ouvrage « La vie ou presque » paru en 2024 aux éditions du Seuil. Tout au long de ce roman, vous passez en revue le travail des écrivains, les écrivains eux-mêmes, les écrivains face à leur quotidien, à leur joie, à leurs difficultés. Un premier point par rapport à la notion de réécriture, puisqu'on voit dans le roman que les différents protagonistes ne sont pas toujours satisfaits de leurs écrits, doivent sans cesse remettre sur l'ouvrage. Et vous écrivez, les vrais écrivains sont ceux qui aiment réécrire. Mm-hmm. Cela signifie-t-il que si on n'aime pas réécrire, il faut changer de métier ?
Je crois, oui. Et il me semble que cette phrase, d'ailleurs, n'est pas de moi. Je me demande si ce n'est pas Thomas Mann qui disait ça. Tout le monde écrit. Hein, tout le monde écrit. Tout le monde n'écrit pas des romans, mais tout le monde écrit. Et pour beaucoup de gens, réécrire, c'est terrible, quoi. Si on vous demande de réécrire une page, la plupart des gens, ça les ennuie. Ils voient pas l'intérêt. Moi, je dirais que je n'aime que réécrire. C'est-à-dire, pour moi, écrire la première version d'un livre, c'est terrible. Je trouve ça très mauvais. Et en revanche, chaque journée de réécriture, c'est une journée où, sauf si je fais complètement fausse route, c'est une journée où j'ai l'impression que ça va être un peu mieux. Ça va être un peu mieux ce soir. Que la phrase va être un peu plus tenue. Que je vais trouver l'adjectif qui amène une petite saveur supplémentaire que n'avait pas l'adjectif qu'il vient remplacer. Voilà. Donc, oui, les écrivains amoureux de littérature, puisque bon, après il y a des gens qui publient des livres, mais c'est des écrivains, je veux dire, sociologiquement, mais est-ce qu'ils sont dans cette quête dont on parle aujourd'hui, j'en suis pas certain, mais les écrivains qui sont préoccupés de littérature, oui, ce sont des gens qui aiment le rapport à la langue, qui est un rapport qu'on pourrait dire à la fois, je crois, musical, bien sûr. Il y a quelque chose il y a un goût de la poésie, il y a un goût du chant. Hein. Moi je lis, j'écris mes livres à haute voix, enfin, je finis toujours par les écrire à haute voix, et j'ai envie d'entendre une langue qui me porte, une langue qui chante comme je voudrais qu'elle chante. Et puis, il y a quelque chose de très sensuel, de très organique, de très doux, de très bon, dans le fait qu'à un moment donné, quand vous trouvez la juste expression, celle qui restitue le sentiment que vous cherchiez, ou qui restitue, par exemple, dans un paysage, la beauté du paysage que vous avez observé, là, il y a quelque chose de très bon, quoi, de très bon pour l'âme. Et c'est après ça qu'on court.
Alors, dans le roman, toujours les trois protagonistes sont convaincus que la littérature a des pouvoirs considérables. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consistent ces pouvoirs considérables, en vous rapprochant aussi du fait que vous dites aussi que dans votre livre, que vous faites dire plus exactement que les livres peuvent changer le monde. Est-ce vraiment...
Alors, attention, je dis ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. Moi, j'essaye vraiment de ne pas être... J'aime pas trop les livres sentencieux, les livres où un discours surplombe le récit. En revanche, mes personnages sont animés de convictions. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi, comme dans une autobiographie, je dirais, déviée, d'avoir trois protagonistes. C'est qu'au fond, chacun porte une de mes vies possibles, portent certains de mes souvenirs, mais pas tous, sont largement inventés, mais aussi inspirés de moi, et croient en des choses différentes. Et dans cette adolescence dont on parlait tout à l'heure, ils ont cette conviction que la littérature a de grands pouvoirs. Ils pensent que la littérature peut changer le monde. Est-ce que je le crois ? Je sais pas. Est-ce que vraiment un livre a le pouvoir aujourd'hui d'impacter comme ça la vie sociale ? Est-ce qu'un livre pourrait changer le sort des élections américaines ? J'en suis pas persuadé. Mais en même temps, la Bible a changé le cours d'une civilisation. Donc peut-être que certains livres ont ce pouvoir. Et puis, un autre dit... Et ça j'aime bien, il y a un autre personnage qui dit « Peut-être qu'avec les livres, on va réussir à aimer davantage le monde. » Ça, c'est une idée à laquelle je souscrirais peut-être plus facilement. Oui, moi, les livres me rendent le monde plus aimable. D'abord, ils me le font mieux connaître, ils me permettent de mieux le comprendre. Et puis, il y a plein de toutes ces petites choses qu'on a perçues, mais sans bien les comprendre sur le moment, que ce soit des choses drôles, des choses tristes, des choses douloureuses. Et puis un livre, parfois, en quelques mots, vous restitue ces petits événements que vous avez bien observés vous aussi, mais vous ne vous les étiez pas formulés. Et tout d'un coup, le livre les formule pour vous. Et donc, il vous équipe, en fait, pour mieux comprendre le monde, pour mieux vous y enfoncer, donc pour l'aimer davantage, sans doute.
Alors c'est Paul dans le livre qui aimerait certifier qu'effectivement les livres peuvent changer le monde. Et il y a Idoya qui a une réflexion et une approche de la littérature qui est différente, parce que elle dit que finalement, elle, être une autrice sans œuvre ni trace durable, bien, ça correspondrait tout à fait à ce qu'elle recherche ou ce à quoi elle pense pouvoir prétendre.
En tout cas, elle pourrait s'y résoudre. C'est vrai que, alors, vous me demandiez qu'est-ce qu'un écrivain ? Alors, un écrivain qui ne publie pas, un écrivain, c'est sans doute quelqu'un qui aimerait écrire. Un écrivain qui ne publie pas, c'est compliqué, parce que c'est comme un comédien qui ne jouerait que pour lui-même dans sa cuisine. Quand vous écrivez un livre, en fait, le livre n'existe en tant que récit qu'à partir du moment où il est lu. Donc vous faites une moitié du chemin. Et moi, c'est ce qui m'avait rendu d'ailleurs si malheureux, hein, quand mon premier livre avait comme ça rencontré aucun public, c'est que je m'étais dit, mais en fait, ton livre, il est mort-né, quoi. C'est-à-dire, soit vous écrivez pour la gloire. Moi, j'avais 22 ans, j'étais publié chez Gallimard. Peut-être que j'aurais pu être un de ces écrivains heureux de voir son nom imprimé sur la belle collection couleur crème. Ça n'a pas du tout été le cas, vous voyez. Moi, j'ai senti à ce jour-là que je me suis dit, en fait, c'est pas après ça que je cours. Moi, je cours pas après ça, je cours après l'envie d'être lu, parce que quand vous écrivez, vous êtes comme un comploteur qui prévoit comme ça plein de petites joies pour le lecteur, des surprises, moi j'essaye d'écrire des choses aventureuses, romanesques, que le récit n'aille pas forcément là où on pense qu'il va aller. Vous avez envie de surprendre, donc la question du nombre de lecteurs vous importe forcément. Et Idoya se dit, malgré tout, ben, peut-être que j'ai été autrice d'une certaine manière, en publiant quasiment pas, en publiant pas ce que je voulais publier, mais j'ai fait ce chemin dans la littérature et ça me suffira. Et ça, c'est une chose qui me touche énormément, parce qu'en fait, un de mes plus proches amis est dans ce cas. J'ai un ami qui est Idoya, c'est-à-dire j'ai un ami que je connais depuis 25 ans, qui a écrit 6 livres, qui me les fait lire. Chaque fois, j'aime ses livres. Je ne sais pas si c'est les plus beaux livres de la littérature française, mais je sais que ce sont des livres tout à fait dignes d'être publiés. Et chaque fois, je lui dis, bon, peut-être qu'il faut que tu changes des petites choses, mais c'est prêt, tu devrais l'envoyer. Et puis 3 mois après, quand je prends des nouvelles du livre, il me dit, non, tu sais, je suis passé à autre chose, c'était pas le bon livre. Et donc, je ne sais pas si un jour il va publier un livre, mais je sais qu'il fait un chemin dans la littérature qui est différent de celui que moi j'imagine possible. C'est vrai qu'être écrivain sans publier, j'en serais très malheureux. Mais lui n'est pas malheureux de ça. Donc, il a ce chemin dans l'écriture, et sûrement qu'un certain nombre de vos auditrices et de vos auditeurs sont dans la même situation. Ils ont une pratique de l'écriture pour eux qui est peut-être qui leur suffit, et donc ils sont écrivains dans cette manière-là de se lier à la littérature.
Alors, ils sont dans cette situation, effectivement. Et en même temps, il existe des gens, des écrivains que vous avez décrits, qui s'astreignent à écrire et qui ne peuvent pas publier. Et puis, dans votre roman, apparaît ce qu'on pourrait appeler un livre dans le livre,
oui.
Et qui fait une sorte de liste de gens qui ont écrit, mais qui manifestement expriment le désir ou la volonté de n'être surtout pas publié, de n'être surtout pas lu. Alors, vous en avez un qui s'oppose à l'imprimerie parce que oui. L'écriture manuscrite révèle l'âme et donc qu'il est opposé à la luminotypie. Il faudrait que vous nous expliquiez. Il y en a une qui est à la recherche du vers définitif. Donc,
un alexandrin. Oui.
Voilà. Et il y en a qui, finalement, ont imaginé des... l'IA et des robots pour écrire, puisqu'il y a un chapitre qui traite des écrivains mécaniques du XVIIIe siècle, qui est à savourer, compte tenu de l'évolution, effectivement, de l'intelligence artificielle. Donc, il y a des gens comme ça qui pourraient se suffire de dire « j'écris, mais je garde tout pour moi ».
Je sais pas, peut-être. Ce dont vous parlez, ce sont en fait des chapitres intercalaires dans le livre qui s'appelle Les écrivains parfaits. Et c'est un projet auquel travaille Hidoya, mais de loin en loin, sans vraiment lui accorder d'importance. Hidoya, elle rêve d'un grand livre. Ce qui va être un incident déclencheur dans sa vie, c'est qu'elle va être tout près d'écrire ce grand livre et elle va perdre le manuscrit, et donc sa vie se déploie à partir de ce livre fantôme, ce livre qui ne sera jamais retrouvé. Et pour se consoler, pour passer le temps, elle écrit comme ça des toutes petites miniatures, des petites choses, elle fait des portraits d'écrivains imaginaires qu'elle imagine en quête d'un absolu. Donc la première d'entre elles, c'est une jeune femme qui rêve d'écrire un seul vers, un seul alexandrin, 12 syllabes, qui auraient une valeur comme ça, qui se suffiraient à eux-mêmes pour faire une œuvre, quoi. Comme si vous arriviez à dire quelque chose comme « connais-toi toi-même » ou comme « être ou ne pas être, telle est la question ». Enfin, la phrase qui suffirait à vous faire passer à la postérité. Et puis, ce sont des chapitres avec une forme d'humour. Donc on entre dans cette fantaisie-là. En se demandant si c'est pas la seule chose qui va rester d'Hidoya. Voilà, parce qu'Hidoya, on ne sait pas très bien si elle va publier. On comprend qu'on va aller tout au bout de leur vie. Donc on va aller aussi dans des années au-delà de notre époque. Et on comprend que le récit est raconté après la mort des personnages. Donc il va raconter l'entièreté de leur vie. Et que sans doute, il est resté d'Hidoya, peut-être certains livres, mais en particulier... il est resté ces petits objets-là. Et ça, je suis touché, moi, par... je me méfie, en fait, des grandes œuvres, des choses un peu grandiloquentes, de ce désir très masculin aussi, je trouve, du monumental. Et j'ai le goût d'un certain nombre d'écrivains, je pense à Joseph Roth, par exemple, je pense à l'Américain Joseph Mitchell, qui sont des auteurs qui se sont épris de l'infime, du dérisoire, de l'imperceptible, du petit, voilà, et qui en ont fait des chefs-d'œuvre.
Revenons un instant au travail de l'écrivain. Est-ce qu'un écrivain doit s'entêter ? Il y a une phrase dans le livre en parlant de Simon qui dit « Il sait qu'au début tout sera médiocre, mais qu'il ne faut rien en conclure. Un écrivain doit s'entêter. » C'est valable dans tous les cas ?
Alors ça, j'aimerais savoir ce que vous répondent d'autres invités. Moi, il me semble que si j'avais pas cet entêtement, je vais dire basque pour aller vite parce qu'on est réputé têtu, mais si j'avais pas eu cette obstination, oui, vous m'auriez pas devant vous. J'aurais, je le disais au début. Alors, je veux pas donner l'impression d'une vie de souffrance, mais c'est vrai que à moins d'être très très imbu de soi-même, très heureux de ce qu'on est, souvent ce qu'on écrit au début, Hemingway le disait en des termes d'ailleurs beaucoup plus vulgaires, mais c'est ça vraiment, c'est très 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 mauvais. Donc, il faut annuler l'esprit critique. Il faut refuser de laisser entrer la partie de soi qui vous rabaisse, qui vous souffle que vous êtes médiocre, qui vous souffle que vous n'y arriverez jamais, il faut la mettre à la porte, il faut écrire, il faut avancer et se dire « ce sera mieux plus tard ». Voilà. Et donc, c'est cette croyance-là, c'est cette discipline-là qui permet, je crois, enfin moi en tout cas, qui m'a permis d'écrire des livres, oui.
Et en conclusion, est-ce que l'on peut dire que les bons écrivains sont ceux qui échouent juste un peu mieux que les autres?
Oui, ça c'est dans le livre aussi. Il me semble que c'est une phrase qui dit un peu ce que dit ailleurs, je crois, Olivier Rollin. Si vous connaissez cet écrivain qui a été longtemps publié au Seuil, qui publie maintenant chez Gallimard, qui avait écrit Tigre en papier ou L'invention du monde. Et il dit un peu ça dans un entretien, et je trouve ça très beau. Oui, la langue est toujours approximative. La langue, tout simplement, n'est pas la matière du monde. Le monde n'est pas fait que de mots. Le monde des mots est une infime partie du monde vécu. Et donc, ce que nous tentons de faire avec les mots, cette restitution de nos différentes expériences humaines est vouée à toujours échouer sur le seuil de ce que fut l'expérience. Voilà, vous ne pourrez jamais la restituer dans la littérature. Et donc, il y a une forme d'échec, mais manifestement, ces échecs nous plaisent, puisque la littérature est toujours là, puisqu'il y a autour de nous, ça aussi j'aurais voulu vous en parler, des formes d'art, des formes de divertissement beaucoup plus performantes, qui font du bruit, qui sont immersives, qui vont vite, qui sont séduisantes, colorées. Et pourtant, vous, moi, ceux qui nous écoutent, les libraires, les grands lecteurs, les critiques de littérature, on est là, tenus par les livres. Donc c'est bien que les livres accomplissent quelque chose qu'ils sont les seuls à pouvoir nous donner.
Bien, nous resterons sur cette conclusion. Merci beaucoup, Xavier Molia, d'avoir répondu à l'invitation de Parole d'auteur. Je rappelle aux auditeurs que vous publiez aujourd'hui La vie ou presque, paru aux éditions du Seuil en août 2024. Merci à la librairie Ombre Blanche qui nous a permis de réaliser cette émission. Et merci aux auditeurs pour leur fidélité. Au revoir à tous.
Au revoir.